Page de honte et de misère. Un matin, que Clotilde était sortie seule pour une course dans le voisinage, elle rentra bouleversée, toute pâle et frissonnante. Et dès qu'elle fut en haut, chez eux, elle s'évanouit presque dans les bras de Pascal. Elle bégayait des mots sans suite. « Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Ces femmes !» Lui, effrayé, la pressait de questions. « Voyons, réponds-moi, que t'est-il arrivé ?» Alors, un flot de sang empourpra son visage. Elle l'étreignit, se cacha la face contre son épaule. « Ce sont ces femmes ! En passant à l'ombre, comme je fermais mon ombrelle, j'ai eu le malheur de faire tomber un enfant. Et elles se sont toutes mises contre moi, et elles ont crié des choses, oh, des choses que je n'en aurais jamais d'enfant, que les enfants, ça ne poussait pas chez les créatures de mon espèce, et d'autres choses, mon Dieu, d'autres choses encore, que je ne peux pas répéter, que je n'ai pas comprises. » Elle sanglotait. Il était devenu livide. Il ne trouvait rien à lui dire. Il la baisait éperdument en pleurant comme elle. La scène se reconstruisait. Il la voyait poursuivie, salie de gros mots. Puis, il balbutia. « C'est ma faute. C'est par moi que tu souffres. Écoute, nous nous en irons, loin, très loin, quelque part où l'on ne nous connaîtra pas, où l'on te saluera, où tu seras heureuse. » Mais bravement, dans un effort, en le voyant pleurer, elle s'était remise debout. Elle rentrait ses larmes. Ah, c'est lâche ce que je viens de faire là. Moi qui m'étais tant promis de ne te rien dire. Et puis, quand je me suis retrouvée chez nous, ça a été un tel déchirement que tout m'est sorti du cœur. Tu vois, c'est fini. Ne te chagrine pas. Je t'aime. Elle souriait. Elle l'avait repris doucement dans ses bras. Elle le baisait à son tour, ainsi qu'un désespéré dont on endort la souffrance. « Je t'aime, et je t'aime tant que cela me consolerait de tout. Il n'y a que toi au monde, qu'importe ce qui n'est pas toi. Tu es si bon, tu me rends si heureuse. » Mais il pleurait toujours, et elle se remit à pleurer. Et ce fut longtemps une tristesse infinie, une détresse où se mêlaient leurs baisers et leurs larmes. Pascal, resté seul, se jugea abominable. Il ne pouvait faire davantage le malheur de cet enfant qu'il adorait. Et, le soir du même jour, un événement se produisit qui lui apporta enfin le dénouement, cherché jusque-là avec la terreur de le trouver. Après le dîner, Martine l'emmena à l'écart en grand mystère. « Madame Félicité, que j'ai vue, m'a chargée de vous communiquer cette lettre, monsieur, et j'ai la commission de vous dire qu'elle vous l'aurait apportée elle-même, si sa bonne réputation ne l'empêchait de revenir ici. Elle vous prie de lui renvoyer la lettre de monsieur Maxime, en lui faisant connaître la réponse de mademoiselle. » C'était, en effet, une lettre de Maxime. « Félicité ?» Heureuse de l'avoir reçue, en usait comme d'un moyen actif, après avoir attendu vainement que la misère lui livrât son fils. Puisque ni Pascal ni Clotilde ne venaient lui demander aide et secours, elle changeait de plan une fois encore. Elle reprenait son ancienne idée de les séparer. Et cette fois, l'occasion lui semblait décisive. La lettre de Maxime était pressante. Il l'adressait à sa grand-mère pour que celle-ci plaidât sa cause près de sa sœur. L'ataxie s'était déclarée. Il ne marchait plus déjà qu'au bras d'un domestique. Mais surtout, il déplorait une faute qu'il avait commise, une jolie fille brune qui s'était introduite chez lui, dont il n'avait pas su s'abstenir, au point de laisser entre ses bras le reste de ses moelles. Et le pis était qu'il avait maintenant la certitude que cette mangeuse d'hommes était un cadeau discret de son père. Saccar la lui avait envoyée, galamment, pour hâter l'héritage. Aussi, après l'avoir jetée dehors, Maxime s'était-il barricadé dans son hôtel, consignant son père lui-même à la porte, tremblant de le voir un matin rentrer par les fenêtres. La solitude l'épouvantait, et il réclamait désespérément sa sœur. Il la voulait comme un rempart contre les abominables entreprises, comme une femme enfin douce et droite qui le soignerait. La lettre donnait à entendre que, si elle se conduisait bien avec lui, elle n'aurait pas à se repentir. Et il terminait en rappelant à la jeune fille la promesse qu'elle lui avait faite lors de son voyage à Plassans, de le rejoindre s'il avait réellement besoin d'elle un jour. Pascal resta glacé. Il relut les 4 pages. C'était la séparation qui s'offrait, acceptable pour lui. Heureuse pour Clotilde, si aisée et si naturelle, qu'on devait consentir tout de suite. Et, malgré l'effort de sa raison, il se sentait si peu ferme, si peu résolu encore, qu'il dut s'asseoir un instant, les jambes tremblantes. Mais il voulait être héroïque. Il se calma, appela sa compagne. « Tiens, lis cette lettre que grand-mère me communique. » Attentivement, Clotilde lut la lettre jusqu'au bout, sans une parole, sans un geste. Puis, très simple, « Eh bien, tu vas répondre, n'est-ce pas ? Je refuse. » Il dut se vaincre pour ne pas jeter un cri de joie. Déjà, comme si un autre lui-même avait pris la parole, il s'entendait dire, raisonnablement, « Tu refuses, ce n'est pas possible. Il faut réfléchir. Attendons à demain pour donner la réponse. Et causons, veux-tu ?» Mais elle s'étonnait, elle s'exaltait. « Nous quitter ? Et pourquoi ? Vraiment, tu y consentirais ? Quelle folie ! Nous nous aimons et nous nous quitterions, et je m'en irai là-bas où personne ne m'aime. Voyons, y as-tu songé ? Ce serait imbécile. » Il évita de s'engager sur ce terrain. Il parla de promesses faites, de devoirs. « Rappelle-toi, ma chérie, comme tu étais émue lorsque je t'ai averti que Maxime se trouvait menacé. Aujourd'hui, le voilà battu par le mal. » Infirme, sans personne, t'appelant près de lui. Tu ne peux le laisser dans cette position. Il y a là pour toi un devoir à remplir. Un devoir ? S'écria-t-elle. Est-ce que j'ai des devoirs envers un frère qui ne s'est jamais occupé de moi ? Mon seul devoir,